Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un roman qui interroge la littérature, une fiction qui se promène dans le monde des livres aujourd'hui, à travers le regard et les mots, non pas d'un auteur, mais d'un éditeur. Un homme qui a consacré sa vie à publier les autres et qui, dans une époque où l'on valorise plus les best-sellers que les chefs-d'œuvre, se retrouve sur le point de mettre la clé sous la porte. Doux et désenchanté, caustique et réaliste, ce roman qui ne se prend pas au sérieux mais qui n'oublie pas la gravité de la vie, à l'image de son auteur donc, s'intitule « Tiré de faits irréels » et paraît aux éditions Gallimard. Bonjour Tonino Benacquista.
Bonjour.
On vous connaît comme écrivain, nouvelliste, scénariste, dramaturge, dont l'univers glisse du roman noir au roman blanc, de l'écrit à l'image, et qui ici, une fois de plus, fait l'éloge de l'imagination pour nous sauver du réel, avec toutefois, comme d'habitude, un petit pied de nez en se plaçant là où on ne vous attend pas, et ici dans les pas d'un homme qui a consacré son existence à son idéal de la littérature. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le profil de cet éditeur ?
Déjà, je trouve beaucoup plus intéressant les questionnements sur la littérature quand elles viennent d'un éditeur plutôt que d'un auteur. Un auteur vient y voir son ego, tous les écrivains racontent des histoires d'écrivains. Moi, je trouvais plus intéressant le point de vue d'un éditeur, c'est-à-dire quelqu'un qui mise sur des textes, qui passe son temps à lire des manuscrits, qui lui est complètement débarrassé de son ego, qui cherche la perle rare, mais qui prend sur lui cette responsabilité de lire 99 manuscrits et de n'en retenir aucun, et de tomber sur le centième en disant « ça, celui-là, il faut que je le donne à lire, il faut que je me batte pour celui-là ». Ça, c'est un job, moi, j'aurais jamais pu faire un job pareil. Mais ça, je me disais, lui, s'il éprouve un désenchantement ou s'il a des questionnements, je trouve les voir à travers ses yeux, c'est plus intéressant.
Donc, ce Bertrand Dumas a monté sa maison d'édition dans les années 80. Il a publié 641 titres. Il a consacré plus de 10 ans de sa vie à lire. C'est le temps mis bout à bout de son temps de lecture. Il a sans doute sacrifié un peu sa vie de famille et aujourd'hui, il fait faillite. Pourquoi Tonino Benacquista?
C'est tout l'objet du bouquin. C'est-à-dire qu'effectivement, ce pourquoi est une injustice absolue. Pourquoi est-ce que ça s'arrête? Pourquoi est-ce qu'on publie tant de romans? Parce qu'il ne publie que des romans. Parce que lui ne s'intéresse qu'à la fiction. Et il pense que seule la fiction va nous parler du réel. D'où le titre d'ailleurs, Tiré de faits irréels. Mais il ferme boutique du jour au lendemain. Il ne sait pas pourquoi. Et pendant toute une nuit, jusqu'au lendemain matin où il va déposer officiellement son bilan. Il a rendez-vous à 9h pour... ça y est, il est en cessation de paiement. Il lui reste une nuit pour essayer de comprendre. Alors, il va y avoir cette espèce de dérive nocturne, comme ça, très, très onirique. Et il va être visité par ses souvenirs, avec de la nostalgie, puis avec des... Moi, j'ai voulu que le ton soit plutôt celui de la comédie et celui de la dérision, mais dans un sens positif. Mais en même temps, il y a aussi un peu de suspense, dans la mesure où dès la première page du bouquin, il dit bon, ça y est, l'histoire s'arrête, mais quand même, quoi, il y a une injustice. J'ai sacrifié toute ma vie au romanesque. Maintenant, ça serait bien que le romanesque vienne m'aider, fasse surgir une péripétie, un coup de théâtre qui me sauve de la ruine. Et donc, il attend le romanesque et le romanesque va l'écouter.
Est-ce que c'est aussi en réaction à la crise que connaît le monde des livres en France que vous écrivez ce roman, Tonino Benacquista, pour comprendre vous aussi ?
Oui, mais comment dire, le faire avec mon exercice à moi, qui est celui du roman, du romanesque et de la fiction. C'est-à-dire qu'effectivement, même le Centre national du livre a publié des chiffres sur la perte de vitesse de la lecture, le nombre de lecteurs, etc. Et puis, il y a toujours des chiffres et des bouquins qui sortent là-dessus. Bon, on peut avoir un constat réaliste et documenté. Je raconte cette histoire-là, où peut-être les questionnements très réaliste de mon éditeur, mais par le roman.
Cela dit, Tonino Medacquista, comme vous êtes aussi très facétieux, comme le savent ceux qui vous ont lu précédemment, vous vous faites l'avocat du diable, évidemment, avec par exemple cette tirade, page 38. Socrate en personne nous a mis en garde contre la lecture. Les livres, selon lui, nous donnent l'illusion d'être des sachants, alors que nous nous contentons d'une pensée morte et retranscrite du prêt-à-penser en boîte. Seule la conversation aiguise la conscience, met notre esprit à l'épreuve, nous confronte à la parole de l'autre dans une quête commune du beau et du vrai. En d'autres termes, la lecture est la fabrique de l'ignorance. Fermez les guillemets. Alors, est-ce que c'est de la provocation ou est-ce que vous le pensez aussi un tout petit peu ?
Là, il faudrait demander à Socrate si c'était de la provocation. Pour lui, ça n'en était pas. Ces propos-là, donc cette citation de Socrate, est dans la bouche d'un mécène, de quelqu'un qui a toujours aider à ce que des éditeurs fondent leur maison, c'est un amoureux du livre, etc. Mais qui, lui aussi, c'est pas mon éditeur, hein, c'est un mécène. On dit, il va peut-être me faire un chèque pour que l'aventure continue. Et en fait, le type dit non. Je me suis aperçu que voilà, tout ce que j'ai aimé dans le livre, en fait, le monde, pour moi, selon moi, va de plus en plus mal et il y a de plus en plus de livres. Et maintenant, je ne sais plus. J'en ai un peu marre. Je veux dire, tous ces bouquins qui nous expliquent comment vivre, comment penser. La littérature est donneuse de leçons quand même. Hein. Elle est là. Bon, là, et en plus, la littérature, ça n'est pas le livre. Là, en l'occurrence, c'est le livre. C'est-à-dire tous les livres publiés. Et donc, il fait ce constat qui est certainement un peu amer, qui n'est pas forcément le mien, mais de dire ben, il y a de plus en plus de livres. Et les livres vont nous survivre avec toute leur sagesse, parce que l'humain ne s'inspire pas de tout ça. Voilà, il a tout, il a Victor Hugo et il a Goethe, mais la guerre fera toujours rage, c'est tout.
Et un peu plus loin d'ailleurs, vous écrivez, Tonino Benacquista, « La littérature entretient d'inacceptables vertus consolatrices. Elle ne nous a pas sauvés, nous ne la sauverons pas. » Fermez les guillemets. Vous, la littérature ne vous a pas sauvés ?
Si.
Ah oui.
Si, moi si. Elle m'a sauvé de tout. Et c'est une passion... Oui, c'est une passion, mais même c'est une passion tardive, je dirais, parce que je lis beaucoup plus que je n'ai lu quand j'étais jeune. Et moi, elle m'a sauvé de beaucoup de choses, oui. Elle m'a sauvé de, voilà, d'une espèce de désarroi que j'ai toujours éprouvé. Et là, aujourd'hui, je fais ce que j'aime faire le plus au monde en me réveillant le matin, c'est d'écrire. Donc, ce désenchantement, je ne le vis pas moi-même, mais le roman, les romans, ne sont pas là pour nous dire « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Et j'aurais pu écrire le bouquin qui disait « ah mais la lecture c'est formidable, les livres c'est formidable, les lecteurs sont formidables, les écrivains sont formidables, la littérature c'est formidable ». Oui, ce bouquin, je dirais d'une certaine manière, il existe et tout le monde l'a écrit. Le mien dit exactement l'inverse, mais parce que les questionnements seront plus, à mon avis, plus riches.
Mais... est-ce qu'en même temps, ici, les goûts littéraires de Bertrand Dumas, cet éditeur, ne sont pas un peu trop haut de gamme ? Dans la mesure où, ici, vous citez beaucoup de grands auteurs que la plupart des gens n'ont pas lus. Musil, Borges, Thomas oui. Mann, Saul Bellow, Italo Calvino. Est-ce que ce n'est pas mettre aussi la littérature sur un piédestal qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, en effet, il y a moins de lecteurs ? Je ne sais pas, j'essaye de comprendre avec vous.
Là, en tout cas, dans ma démarche, absolument pas. C'est-à-dire que si je cite Musil, qui a écrit un des romans les plus exigeants au monde, L'homme sans qualité, c'est parce que mon éditeur dit « je n'ai jamais compris ce livre ». Enfin, je veux dire, bientôt, oui, je serai à la retraite demain. Et là, peut-être que j'aurai tout le temps, peut-être qu'un jour, je vais me confronter à ce bouquin. D'autres le comprennent, moi non, alors que c'est mon métier depuis tant d'années. Donc, quand, à mon avis, les références ne sont pas exigeantes, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un auteur qui est considéré comme exigeant, on va dire, qui est Borges, que je cite souvent, mais je me dis, c'est dommage de penser qu'il est inaccessible. Et il suffit d'un passeur qui soit là pour vous dire, ben voilà, regarde cette nouvelle, regarde, elle dit ça. Voilà. Mais ensuite, quand tu as compris cette nouvelle-là, ce qui est pas le bout du monde, eh ben, elle t'accompagnera toute ta vie. Et donc, il y a des passeurs, et les éditeurs doivent être des passeurs. Et en l'occurrence, quand il cite Borges, c'est pas pour faire l'érudit, mais quand il cite Madame Bovary, On est dans la littérature la plus partagée. Enfin, je veux dire, c'est pas.
Oui, mais
c'est
en
pas...
même temps, c'est une citation d'ailleurs très pertinente parce qu'il explique comment on ne lit pas le même livre aux mêmes âges. Et donc, toutes les décennies, on va dire, il a relu Madame Bovary. Et à chaque fois, c'est une lecture différente. Ça, je trouve que c'est vraiment une mise en lumière très intéressante.
J'ai pris Madame Bovary parce que c'est, voilà, les gens qui aiment lire ont aimé un jour, à un moment donné de leur vie, Madame Bovary. C'est difficile de rejeter la littérature du 19e. Bon, voilà, pourquoi pas. Mais là, j'ai pris vraiment une référence suprême de la littérature française. Et je me dis, mais imposer ça à des ados, pourquoi pas? Bon, à 16 ans, Madame Bovary. Mais à 30 ans, Madame Bovary. Et puis à 60, Madame Bovary. Et lui, avec un peu de nostalgie, dit bah voilà, moi je serais mort. Moi. Même si de temps en temps, il m'est arrivé de détester Emma, je serais mort et enterré, et mes os seront redevenus poussière. Et ben Emma aura toujours l'avenir devant elle.
Ouais, voilà. Ce livre de Flaubert va traverser les siècles et va nous survivre. C'est la puissance du texte.
On l'espère.
Alors, pendant cette nuit de souvenirs qui lui reste avant éventuellement, en effet, de faire faillite, Bertrand Dumas se souvient. En tout cas, vous faites un tour d'horizon des auteurs qu'il a publiés. Ils sont tous auto-centrés, orgueilleux, sans talent, sans loyauté. Visiblement, l'écrivain n'est pas un animal fréquentable à vous lire.
Il y a des portraits à charge, oui.
Ah, oui.
Mais c'est-à-dire que plus il avance dans sa nuit et plus il va vers cette résolution terrible, et plus il en veut à tout le monde. Mais il en veut aux lecteurs et il en veut aux écrivains. Et là, à un moment donné, effectivement, il pète un câble. Un type qui a publié 641 titres et qui fait l'éloge de tel et tel auteur qu'il considère comme un immense talent, etc. Ben à un moment donné, il en a marre. Et il dit non, vous vous prenez pour qui, vous tous? Vous vous prenez pour qui, quoi? Vous me laissez tomber, puis il n'y en a pas un pour relever la boutique. Enfin, vous êtes qui, franchement?
Et vous, Tonino Benacquista, vous avez quelle relation avec votre éditeur?
Moi, je suis. Non, non seulement j'ai d'excellentes relations, mais il se trouve que j'ai cette chance d'avoir connu chez Gallimard deux collections qui étaient. J'ai commencé à la série noire, c'était un rêve absolu, un rêve. C'était un rêve d'adolescent que d'être publié dans cette collection. Et quand j'ai passé la porte du 5 rue Sébastien Bottin, pour moi, elle s'appelait Sébastien Bottin à l'époque, pour moi, c'était. J'y croyais pas. Et ensuite, on m'a proposé cette collection. Et bien, 30 ans plus tard, je suis toujours aussi fier de voir cette collection avec mon nom dessus. Ça me fait toujours quelque chose. Je ne peux pas être blasé de cette collection.
Non, mais vous ne répondez pas à ma question. Non. Est-ce que vous êtes odieux ou pas, vous?
Ah, c'est ça, votre question. Non, je crois être... ça se passe très bien. Je ne... Franchement, par exemple, ce bouquin-là, c'est quand même des histoires d'édition. Je veux dire, la maison Gallimard aurait pu se dire... Ouais, tu vas fort quand même avec ceci, avec cela, enfin, avec cette espèce de truc un peu grincheux parfois, ou malveillant, ou ceci, cela.
Ou réaliste,
bon. Et là, on m'a dit, ah non, pas du tout, t'aurais pu faire 10 fois ça. Il y avait une place dans la maison Gallimard pour ce roman qui est certainement assez féroce, ouais.
Alors, on va continuer... de parler de tirer de faits irréels dans quelques instants. Pour le moment, Tonino Benacquista, je vous propose d'écouter quelques notes de musique. Alors ici, dans le roman, on entend du Beethoven, du Erik Satie, le Clair de lune de Debussy, la musique de 8 et demi, d'une certaine façon, le film de Fellini, les Clash, si je me souviens bien, et les Rolling Stones, si j'ai lu entre les lignes.
Oui.
Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écoute maintenant?
You can't always get what you want?
Ouais.
Oh yes.
Avec grand plaisir, on écoute les Rolling Stones.
Oh, at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui Tonino Benacquista, dont le nouveau roman vient de paraître sous le titre « Tiré de faits irréels » aux éditions Gallimard. Alors on l'a dit en première partie, c'est une fiction qui raille et qui décortique aussi le monde de la littérature française contemporaine, dévorée par ses excès, plus de 50 000 nouveaux titres par an, ses bandeaux saturés de superlatifs, magnifiques, bouleversants, formidables, sublimes, sa pratique des lecteurs sensibles, pour ne plus heurter personne, sa dilution sur les réseaux sociaux, bref, un temps où les chiffres et les lettres ne font pas bon ménage. Au point que l'éditeur, le personnage principal de ce livre, lui-même doute de ses choix quand ses publications échouent à trouver leur public. Est-ce que vous aussi, Tonino Benacquista, vous avez parfois douté quand le succès n'était pas au rendez-vous ?
Oh, ben forcément, enfin, bien sûr. Se dire, ben voilà, j'ai consacré un an, deux ans, trois ans, est-ce que c'était un bouquin nécessaire ? Ouais, maintenant, je passe beaucoup de temps à ne pas écrire un bouquin. C'est quelque chose qui est prioritaire maintenant. C'est-à-dire que quand j'avais 25 ans, je partais comme ça, à la fleur au fusil, en me disant wow, « Waouh, j'ai un sujet, il faut que je l'écrive, le monde n'attend que ça, j'attendais la publication, etc. etc. » J'étais fébrile, comme quelqu'un de 25 ans. Maintenant, c'est exactement l'inverse. Maintenant, j'ai une idée, une situation, je me dis voilà, je vais laisser maturer tout ça, etc. Et je vais me convaincre de ne pas écrire ce roman parce qu'il a été fait, parce qu'il a été mieux fait, parce que je n'ai pas en moi suffisamment de matériaux pour nourrir le thème que j'ai en tête, etc. etc. Et quand le sujet résiste, au bout de plusieurs mois, je me dis, bon, peut-être qu'il faut écrire ce bouquin. Mais avec une idée de nécessité. Je veux dire, alors évidemment, tous les auteurs au monde ont cette idée de nécessité. Leur bouquin est nécessaire. Voilà. Maintenant, je prends plus de temps à étudier cette question-là.
Mais en même temps, quand on est un peu protégé, alors c'est un mot que je mets entre guillemets, hein, bien entendu, mais dans le sens où vous êtes publié dans une grande maison d'édition française, qu'en 30 ans, vous avez un socle de lecteurs important. Quand on est appelé, comme vous, par le cinéma, tout le monde n'a pas eu la chance quand même d'avoir Robert De Niro comme acteur hein, dans une adaptation, excusez-moi du peu. Est-ce que vous vous sentez moins intranquille aujourd'hui ?
Bah oui, d'abord, du fait de mon âge et de mon, je veux dire, du recul que j'ai avec... Moi, j'ai commencé à écrire très jeune, donc maintenant, voilà, la première publication, c'était il y a 40 ans. Donc voilà, j'envisage plus les choses de la même manière. Et de toute façon, la messe est dite. Maintenant, il me reste deux romans peut-être à écrire, et puis des nouvelles, même si personne n'en veut, hein, je vous rassure, personne ne veut de nouvelles en France, mais bon, je ne peux pas m'en empêcher. Et puis, y mettre le temps, et puis rechercher la phrase, la contourner, la rechercher. Voilà, maintenant, j'en suis plutôt à ce stade-là. Je suis plus en train de me dire « Ah tiens, voilà un sujet. » Je ne me préoccupe pas spécialement de... Voilà, de...
En tout cas, vous êtes, quand je disais moins intranquille, vous êtes plutôt dans un stade de sérénité, quoi.
Oui, parce que je pense que l'essentiel du chemin a été parcouru, que effectivement je suis rassuré quand je vais... Voilà, il n'y a pas longtemps, là, j'allais dédicacer dans un salon. Il suffit d'un lecteur qui arrive avec son bouquin et qui vous dit à quel point ce bouquin a été important dans sa vie. Bon, moi, je sais pas, je dois avoir une vingtaine de romans, mais il y a peut-être un ou deux titres qui subsistent et qui restent. Enfin, qui restent, en tout cas, dont on me parle. Et quand je vois l'enthousiasme ou l'émotion de quelqu'un qui m'en parle, je me dis, bon, ben voilà, ça valait la peine de l'écrire, ce bouquin. Puis ça valait la peine de faire tout ce parcours. Voilà.
Mais si on va jusqu'au bout de l'idée que vous émettez d'en tirer de faits irréels, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'un cycle, hein, à la fin d'un certain mode d'édition, même si aujourd'hui on peut dire à la fois que ce sont des dinosaures, mais non, en tout cas c'est un métier de passion. S'il n'y a plus d'éditeurs tels que vous les envisagez, est-ce que vous pourriez continuer d'écrire sans avoir la certitude d'être lu justement par ces gens que vous pouvez croiser ? Écrire pour vous, en d'autres termes.
Ah bah, écrire pour moi, de toute façon, je pense que ça viendra tôt ou tard. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, je pense que je ne serai plus en phase avec peut-être mon époque. Maintenant, effectivement, la médiation d'un éditeur, de façon classique, mais toujours nécessaire. J'ai besoin d'un retour, et d'un retour intransigeant sur ce que je fais. Avoir des copains autour ne suffit pas. Donc là, oui, un éditeur est important. Mais l'étape d'après existe déjà, c'est-à-dire mettre directement son bouquin en ligne et parfois avec un succès incroyable, suivre
des ateliers d'écriture.
Ouais, des ateliers d'écriture et ensuite mettre son bouquin en ligne, etc. etc. Et d'ailleurs, je crois que dans les 100 meilleures ventes au monde, il y en a peut-être un tiers qui se passe de l'éditeur. Alors, moi, ça n'est pas mon époque, ma génération, mais peut-être que aujourd'hui et demain, c'est déjà ça.
Et voilà. Ça vous inquiète ?
Non. Non, non. Après, c'est aux jeunes auteurs de nous prouver que la littérature a encore quelque chose à dire. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a encore quelque chose à dire. Je me dis, mais est-ce qu'elle ne nous aurait pas tout dit ? Et voilà. Alors, raconter des histoires, on pourra toujours le faire. Je ne sais pas si les formes narratives vont changer, s'il y en aura de nouvelles. Je ne sais pas. Mais en tout cas, un roman, et peut-être un roman comme celui-là, dit « et si ?» Et si c'était la fin ? Alors, bien sûr que oui, ni je ne le souhaite, ni je ne le pense, ni ceci, ni cela. Mais c'est intéressant de précipiter dans l'esprit du lecteur un éditeur qui dit « mais et si c'était pas moi qui avait failli ?» Non, mais peut-être que si je publie plus, si on monte la sortie, ben c'est que peut-être il n'y a plus rien à publier. Et lui se pose la question tellement à la fin il est déçu. Et je trouve que ce questionnement-là, ça n'est pas une thèse, ça n'est pas de dire « ah, attention », c'est de dire « mais posons-nous la question ». On se dit « tiens, c'est une fin de cycle peut-être, mais est-ce qu'il y a un renouveau derrière ou pas ?» Voilà. Et le roman doit pouvoir, avec, je pense, un certain esprit de dérision, évoquer la question.
Évidemment. Alors c'est aussi un très bel hommage quand même à la lecture. Et j'ai oublié de vous le demander avant cet entretien, Tonino Benacquista, mais il y a un passage que j'aime beaucoup. On est page 134. Est-ce que vous accepteriez de nous lire ces quelques lignes qui sont vraiment en hommage au lecteur et peut-être à une lectrice en particulier ?
Elle ne semble pas attendre un rendez-vous, et sans doute est-elle descendue tout exprès pour lire à ciel ouvert et profiter de la douceur d'un premier soir d'été. Je sais depuis toujours que le dernier lecteur sera une lectrice. Et celle-ci force le respect. Elle atteint un état de concentration plus fort encore que le mien. Un livre en main, elle a le pouvoir de transformer les bistrots, les compartiments de train et les salles d'attente en cabinets d'ubiquité. En avion, elle est la passagère du milieu. Si côté hublot on se sent contemplatif, si côté couloir on se veut mobile, elle, dans sa lecture, elle est deux à la fois. Elle n'ouvre aucun roman portant l'estampille bouleversant, magnifique, chef-d'œuvre. Pour elle, les « je » sont des « je » et les « ils » sont des « ils » où elle se sent attendue. Elle s'aventure hors de sa page de confort, lit contre elle-même, s'accroche, veut en découdre, fournit cet effort sans lequel toute exaltation est inaccessible. Elle perd parfois et gagne souvent. Il serait inadéquat d'envisager son cas sous l'angle de l'addiction, aux inévitables connotations romantiques, passion dévorante, transport exalté, qui induiraient une sorte de renoncement à la vie réelle. Si elle lit, c'est justement parce qu'elle aime la vie réelle.
Merci beaucoup, Tonino Bianacusta. Vraiment, j'aime beaucoup ce passage. Alors, justement, parce qu'aussi, il prend le contre-pied de ce qu'on des clichés. On lit pour s'évader. Mmh. Et là, vous vous dites bien, elle lit parce qu'elle aime la vie réelle. Et donc, le roman finit, on ne va pas dire comment, mais néanmoins, aussi sur un contre-pied magnifique, parce que là, on retrouve la joie et la littérature, là où on ne croyait qu'il n'y en avait pas. Vous avez donc profondément voulu rester optimiste.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr que oui. Bien sûr, mais moi, de toute façon, j'aime les récits où il y a une petite porte qui s'ouvre à la fin, il y a une petite lumière au bout du couloir. Sinon, bon, le truc crépusculaire... Oui, on peut être grave et drôle et on peut être dans la comédie et la tragédie à la fois. Mais si c'est pour trouver des portes fermées, ça m'intéresse moins. Alors, je ne sais pas si je suis un incurable optimiste, mais en tout cas, voilà, on peut effectivement faire confiance au lecteur et on peut faire confiance à des jeunes gens qui vont vivre un engouement incroyable en lisant Emma Bovary dans 50 ans et qu'on préfère imaginer ça. Et puis, on se dit, ben, la littérature n'a pas dit son dernier mot ou elle n'a pas écrit son dernier mot.
Et je pense que c'est un livre qui, justement, va rester. Et dans 10 ans, on se dira encore, ou on se dira tout court, regardez ce que Tonino Bianacusta avait dit de la littérature, que c'était précieux, qu'il fallait y faire attention, mais que c'est aussi, peut-être, un art en mutation. Et l'essentiel, c'est de trouver encore la place pour qu'elle s'exprime, et toujours dans la joie, en tout cas.
Dans la joie, et puis... De temps en temps, j'ai l'impression qu'on célèbre beaucoup plus l'idée de littérature que la littérature elle-même. C'est-à-dire, ah bah oui, la France, le pays des lettres, lisez, lisez, etc. etc. Ça n'est pas la lecture et la littérature elle-même qu'on fait, c'est... on en parle plus qu'on ne lit, quoi, je veux dire, voilà. Mais heureusement, je rencontre encore des enthousiastes.
Et ce que j'ai oublié de dire aussi, parce qu'il y a ce moment très jouissif... où vous réconciliez la littérature très populaire avec la littérature un peu plus exigeante. Oui. Ce que je veux dire, c'est que l'un n'exclut pas l'autre.
Jamais, jamais, jamais. Et puis l'un est l'autre et l'autre va devenir l'un. Enfin, je veux dire, quand on voit l'enthousiasme absolu que reçoit Notre-Dame de Paris comme étant un truc qu'on s'arrache, qui est un best-seller, etc. Aujourd'hui, on va se dire, ah, quand même, hein, Notre-Dame de Paris, c'est quand même... faut le lire, c'est un pavé, etc. Mais c'était un best-seller absolu quand c'est sorti. Et moi, je suis un enfant de la culture populaire.
Et Dumas, j'imagine qu'il s'appelle comme ça, évidemment, en hommage...
Alors, il y a un
hommage... des Trois Mousquetaires.
Je ne le dis jamais, mais effectivement... sur le romanesque, on peut dire Dumas, c'est le patron, ouais. Ça, c'est le boss, ouais.
Bon, alors on va rester sur cet enthousiasme. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Tonino Bianacusta. Je rappelle le titre de ce roman tiré de faits irréels qui est paru aux éditions Gallimard.
Littérature sans frontières. Catherine Frujon-Toussaint. Apolline Verlon.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.